vraiment hâte parce qu'on va commencer une nouvelle série. On va parler de la vérité vous affranchira. Mais avant de faire cela, on va faire qu'est-ce qu'on fait à tous les dimanches matin ici, à la vie comblée. On aime faire une petite déclaration de la foi. Si vous êtes ici pour la première fois, vous allez peut-être dire, ah, qu'est-ce que c'est? Mais vous allez savoir dans une minute. Mais c'est qu'on croit, selon la parole de Dieu, que ce qu'on dit avec notre bouche et ce qu'on croit de notre cœur s'accomplira. Et que c'est important de déclarer qu'est-ce qu'on croit. Et juste avant de recevoir un message, au lieu de juste écouter un sermon comme un discours humain, on sait que l'Esprit Saint peut nous parler à travers le pasteur, mais il peut nous parler surtout à travers la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite à prendre votre Bible dans vos mains. Si vous n'avez pas une Bible, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte avec presque tous les versets qu'on va voir ce matin. On va dire ceci. On va prendre nos Bibles, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, que c'est bon d'avoir la parole de Dieu. La vérité vous affranchira. Ça tombe bien qu'on commence cette série parce que vous savez que, et comme j'ai déjà partagé à travers les quelques semaines qui viennent de passer, que dernièrement, il y a un film fameux qui vient de sortir sur le marché qui s'appelle Le Code Da Vinci. Combien de vous avez entendu parler de cela? Vous avez entendu parler du livre, Le Code Da Vinci, qui était un best-seller, des millions et des millions de copies qui ont été vendues partout dans le monde. Et pourquoi est-ce que je prends le temps même de mentionner ce fameux livre et ce film? C'est parce que c'est tellement populaire, malgré le fait que, heureusement, dans un sens, le film, selon qu'est-ce qu'on entend déjà, n'a pas des commentaires trop positifs là-dessus. Ça, c'est une bonne chose dans le fond. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que, avec la sortie de ce livre par Dan Brown et avec ce film, il y avait toutes sortes d'idées, toutes sortes de théories qui ont été partagées à travers les pages de ce livre qui ont mis en question les bases et le fondement de la foi chrétienne. Et normalement, moi, je ne suis pas une personne, si vous me connaissez bien, c'est peut-être la première fois que j'ai pris le pain et j'ai pris le temps de mentionner un tel livre ou un tel film et de faire un message basé là-dessus. Mais la raison pour cela, c'est parce qu'on a entendu et découvert les choses qui sont un peu troublantes. C'est que les personnes qui ne sont pas instruites, les personnes qui ne connaissent pas la Bible, ont lu ce livre, ils vont aller voir le film et ils sont un peu dans la confusion. Parce que, en tout cas, qu'est-ce qui se passe, c'est que le livre, c'est pas vraiment la vérité. En fait, c'est un roman. L'auteur dit que c'est un roman, sauf qu'au début de son livre, il dit que les choses dans ce livre sont basées sur les faits. On va voir cela tantôt, qu'il mentionne toutes sortes des rites et toutes sortes de traditions, et qu'il dit que ces choses sont basées sur la vérité. Donc, les gens vont sortir du film, les gens vont finir à lire le livre en posant des questions. Des grosses points d'interrogation. Vous dites, ah, est-ce que tout ce que les gens m'ont appris depuis des années est faux? Est-ce que ma foi est basée sur un mensonge? C'est ça que M. Brown aimerait qu'on croie. Il aimerait qu'on croie plusieurs choses qui ne sont pas du tout vraies. Mais ça ne nous étonne pas, ça ne devrait pas nous étonner, parce que si on peut lire dans vos notes, 1 Timothée chapitre 1, verset 3, dès le premier siècle, dès le commencement de l'Église, on a eu des avertissements. Le Saint-Esprit, à travers les apôtres, nous a avertis qu'il y aura des faux docteurs, des faux prophètes, qu'il y aura toutes sortes des choses bizarres qui prendraient place dans les derniers jours. Mais en 1 Timothée 1, verset 3, dans vos notes, Paul dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je suis engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables. Tout le monde dit des fables. Et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc là, il parle des fables, il parle des généalogies, et c'est intéressant parce que dans le livre de Dan Brown, c'est ça, c'est vraiment un fable. On va voir la définition d'un fable tantôt. Et il parle aussi des généalogies, juste entre autres choses, il croit, et il propose, en tout cas, que Jésus de Nazareth, c'était pas vraiment Dieu, c'était un mortel, et en réalité, il s'est marié avec Marie de Madeleine, qu'ils ont eu des enfants, et que la postérité de Jésus est encore en vie dans le sud de la France aujourd'hui. Ridicule, n'est-ce pas, on pense. Sauf que, savez-vous qu'est-ce qui est troublant? Ils ont fait des sondages dernièrement, et ici au Canada, ils ont découvert, avec les personnes qu'ils ont questionnées, qu'un Canadien sur cinq croit que la crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu, pour vrai, et qu'en réalité, que Jésus a fondé une famille. Un Canadien sur cinq croit cela. C'est presque trop pour moi de saisir comment les gens pourraient vraiment, on pourrait dire, avaler un tel mensonge. Mais aujourd'hui, on va voir des choses qui vont vous aider à répondre aux questions, parce que je suis pas mal certain que dans les semaines à venir, surtout avec la sortie du film, si les gens vont aller voir ce film et si on lit le livre, ils vont peut-être vous poser des questions, peut-être vous allez entendre les personnes poser des questions et vous allez avoir les réponses. Dans les semaines à venir, je vais vous donner beaucoup, beaucoup de bons outils pour répondre. Mais en 2 Timothée chapitre 4, verset 3, il y a un autre verset qui dit « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité. » Tout le monde dit la vérité. « Pour écouter des récits de pure invention. » Des récits de pure invention. Laisse-moi vous dire que même si M. Brown dit que les choses dans son livre, en fait, si vous regardez dans vos notes, parce que le message aujourd'hui, c'est les fables, les faits et la foi, on va parler des fables du Code de Vinci versus les faits historiques. M. Dan Brown, il dit, en fait, le Code de Vinci commence en disant que les faits, toutes les descriptions des monuments, d'œuvres d'art, de documents et de rituels secrets évoqués sont avérées, c'est-à-dire véritables et authentiques. Donc, même si son livre c'est un roman, qui n'est pas vrai, il dit que c'est basé sur les faits qui sont vrais. Et c'est là où les personnes sont dans la confusion, parce qu'il dit les choses à propos de Jésus. Il croit pas qu'il est Dieu. Il dit les choses à propos du Nouveau Testament et de la Bible. C'est pas digne de confiance. C'est les hommes qui ont tordu et compilé les choses. Il dit les choses à propos de Jésus-Christ, qu'il s'est marié, il a eu des enfants. Il dit toutes sortes de choses, qu'en réalité, Jésus voulait donner l'autorité de l'Église à Marie-Madeleine. C'était pas supposé d'être Pierre en charge de l'Église, mais c'est Marie qui était supposée d'être en charge. Mais les hommes ont été jaloux. À cause de leur jalousie, ils ont voulu détruire le sacré féminin. Ils ont voulu éradiquer et effacer même toute cette histoire de la femme au niveau de l'Église, sa direction de l'Église. Des choses un peu bizarres, n'est-ce pas? C'est des fables, des récits de pure invention. C'est quoi la définition d'une fable? Selon le dictionnaire, c'est un récit, un propos mensonger ou une histoire inventée. C'est une histoire inventée. Laisse-moi vous dire que le livre de M. Dan Brown, c'est une histoire inventée. Et les choses et les documents qu'il va citer, les choses qu'il va essayer de nous vendre comme la vérité, sont aussi les récits de pure invention. Nous allons comparer les fables avec les faits. C'est quoi la définition d'un fait? C'est ce qui est fait et ce qui existe en réalité. Malheureusement, cet homme a basé tout son livre et toute son œuvre sur des choses qui n'existent pas en réalité. C'est des choses qui ont existé dans l'imagination, soit de lui-même ou de quelques autres personnes qui ont rejeté et qui ont refusé de croire à la vérité. Et dans cette série, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va mettre un peu plus l'accent, plus spécifiquement sur le code Da Vinci, et on va dévoiler les erreurs, et on va vous montrer juste quelques-uns de ces erreurs les plus flagrants, parce qu'il y en a tellement qu'on n'aurait jamais le temps dans une journée, et avant midi, de tout expliquer, ou tout réfuter. C'est pas mon but, mais je veux juste vous montrer assez pour vous dire que qu'est-ce qu'il dit, c'est complètement ridicule. Mais dans les semaines à venir, on va mettre l'accent sur d'autres choses encore plus positives. Et vous allez être équipés pour réfuter pas juste les personnes qui ont lu le livre de Code Da Vinci, qui ont vu le film, mais tous ceux et celles qui sont prêts à mettre en question votre foi chrétienne, la validité des Écritures, la divinité de Jésus-Christ. Vous allez voir les choses qui vont vous aider à vous défendre avec efficacité. Amen? Est-ce que ça vous intéresse? Bon, on y va. Donc, quels sont quelques-uns de ces fables les plus flagrants dans le livre ou dans le film de Da Vinci? Qu'est-ce qu'il dit qui est supposément basé sur les faits qui est complètement faux? Premièrement, fable numéro 1, et j'ai presque honte de le dire, mais selon lui, la tradition juive promulguait des célébrations de rituels sexuels dans le temple. Le lieu très saint était haute non seulement pour Dieu, mais aussi pour sa puissante égalité féminine, la déesse Shekinah. Ça, c'est un blasphème. Ça, c'est pas quelque chose de pas juste drôle, c'est pas du tout drôle, c'est grave, qu'est-ce qu'il dit là. Mais qu'est-ce que M. Brown dit? Il dit que, mais vous savez que, avant l'Église de Jésus-Christ, avant le christianisme, le monde était rempli pas juste des dieux, mais de déesses aussi. Et c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le monde était rempli de déesses. On peut juste regarder à Corinthe, une place où ils faisaient des cultes sexuels, où il y avait plus de 1000 prostituées sacrées dans cette ville. Et on peut juste regarder la ville d'Éphèse. Éphèse qui, eux autres, ils adoraient la déesse Diana, qui était encore la déesse de la fertilité, de fécondité, pardon, je ne peux pas parler aujourd'hui, mais la fécondité. Et toutes sortes de choses bizarres qui se passaient. C'est sûr et certain que le monde, avant Jésus-Christ et même après Jésus-Christ, était porté à croire aux déesses, etc. Mais la vérité, la réalité, c'est qu'il y a un seul Dieu. Et s'il y a une religion sur la planète Terre qui a commencé à promulguer le message qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas des dieux multiples, c'était la tradition juive. C'est Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, c'est Dieu qui s'est révélé à son peuple choisi, les Juifs, et c'est eux autres qui étaient peut-être la seule personne sur la planète, surtout si on regarde dans l'Antiquité, c'est les Juifs qui étaient les personnes seules qui étaient des, qu'est-ce qu'on appelle les monothéistes. Comment on dit monothéistes? Mono, ça veut dire un, donc c'est-à-dire que plusieurs peuple à l'époque, presque tout le monde croyait en plusieurs dieux. Il n'y a pas juste un seul dieu, il y en a beaucoup de dieux. Comme aujourd'hui même la religion hindoue, il y a des milliers de dieux qu'ils vont adorer. Mais les juifs seraient complètement scandalisés avec la pensée qu'autrefois, la réalité c'est que la tradition juive c'était d'adorer un dieu et une déesse qui s'appelle Shekinah. C'est la blasphème. En fait, la vérité, le fait, c'est que la tradition juive a toujours été monothéiste. Et Shekinah, c'est un mot hébreu qui veut dire demeurer et signifie la manifestation de la gloire de Dieu, tout simplement. Quand Dieu se manifeste dans sa présence, on appelle ça la gloire Shekinah. Je le prononce mal en français, mais c'est le Shekinah qui est la manifestation de la présence de un seul Dieu. Amen. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait même pas jouer avec cette pensée. Et encore, ça devrait prouver que toute son livre et toute son hypothèse est complètement fausse parce que lui, il dit que les hommes chrétiens ont voulu cacher la vérité. La vérité, c'est que Jésus voulait donner l'Église à Marie-Madeleine. C'est elle qui devrait être en charge. Et c'est les hommes jaloux qui ont voulu opprimer les femmes. Mais laisse-moi vous dire que là, il parle de la tradition juive qui n'a absolument rien à voir avec le christianisme, qui n'a rien à voir avec Jésus. Des milliers d'années avant que Jésus fût né, des milliers d'années avant la naissance de l'Église, il y avait des monothéistes. Le peuple de Dieu, le peuple d'Abraham, le peuple choisi qui adorait le seul vrai Dieu. Amen. Fable numéro 2. Lui, dans son livre, dans le film, il dit que le Nouveau Testament est entièrement basé sur des légendes, des mensonges et des fabulations. C'est juste des hommes qui ont inventé des histoires. Je m'excuse, M. Brown, mais c'est toi qui as fait ça. Le fait, c'est que le Nouveau Testament était écrit par des témoins oculaires. Vous savez c'est quoi? Un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a vu avec ses propres yeux un événement. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a vu avec ses propres yeux un événement. On va voir plus tard que M. Brown met plus de confiance dans ce qu'on appelle les évangiles gnostiques. Okay, on va voir qu'ils ne sont pas de tous les évangiles, c'est des choses qui sont de la pure folie, inspirées par sûrement les esprits démoniaques. Et ces choses sont complètement, complètement faux et ridicules. Tandis que le Nouveau Testament, et on va voir dans deux semaines, on va faire tout un message là-dessus, comment vous pouvez avoir confiance dans la Bible, comment vous pouvez être sûr et certain que la Bible est inspirée de Dieu, que la Bible est digne de confiance. Combien de vous avez entendu les gens, ici au Québec, dire, mais tu sais, la Bible, c'est juste écrit par des hommes, c'est juste les hommes qui ont inventé la Bible. On va voir dans deux semaines que la Bible est digne de confiance. C'est la parole inspirée de Dieu. Amen. C'est le souffle de Dieu et que la Bible est digne de notre confiance. Alléluia. Donc, le Nouveau Testament n'est pas du tout basé sur les légendes, les mensonges ou les fabulations. En fait, historiquement, on peut aller voir et on peut prouver que tout ce qui est dit dans le Nouveau Testament et en plus dans l'Ancien Testament est vrai. À tous les jours et à chaque année, ils vont découvrir encore plus des choses. Les archéologues vont découvrir encore plus des choses qui prouvent que la Bible est vraie. Amen? Et moi, je ne peux pas entrer en détail là-dedans parce que dans deux semaines, on va faire tout un message là-dessus. Puis, fable numéro 3. Dans l'année 325, il dit, un comité religieux et politique sous Constantin, vous vous rappelez de Constantin, a déterminé par un vote assez serré que Jésus serait dorénavant considéré le Fils de Dieu. Les premiers disciples croyaient qu'il était un simple mortel. Ça, c'est le message du Code da Vinci, c'est que l'Église primitive croyait, et juste en passant, je ne vous suggère pas de lire le livre. Moi, je ne l'ai même pas lu, j'ai juste lu les commentaires là-dessus. Je ne vous encourage pas d'aller voir le film. Moi, je n'aimerais pas donner mon argent à un tel monsieur qui a besoin de Jésus, bien entendu. Je l'aime, hein, et je prie pour lui. Mais je ne veux pas financer non plus ses mensonges, et vous? Mais je veux juste dire une chose. Il est en train de essayer de convaincre la société qu'en réalité, l'Église primitive ne croyait pas que Jésus était Dieu. Il croyait que c'était un mortel, une bonne personne, peut-être même un prophète, mais qu'il était juste un homme qui est mort, qui n'est pas ressuscité des morts et qui a donné son autorité à Marie-Madeleine. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? C'est vrai qu'en 325, il y avait une comité religieux et politique que Constantin a convoqué. C'est vrai qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. C'est vrai qu'il y avait un vote concernant la divinité de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que M. Brown a tout tordu l'histoire. La vérité, c'est que dès le commencement, tous les chrétiens, tous les apôtres, et l'Église primitive croyait et prêchait que Jésus était Dieu. c'est certain que avec les années, il y avait certaines sectes qui ont commencé à mettre cela en question. Mais les apôtres et les premiers chrétiens ont toujours prêché, enseigné et vécu dans la lumière du fait que Jésus est Dieu. Amen? Toujours, toujours. Donc, mais il a convoqué, c'est sûr, Constantin a convoqué plusieurs centaines des leaders spirituels, mais pas pour déterminer est-ce qu'il était Dieu ou pas Dieu, mais pour déterminer jusqu'à quel point sa divinité avait une influence, etc. J'ai pas le temps de tout expliquer cela. Oui, il y avait une vote, et je pense que dans la vote, et je m'en souviens plus exactement des chiffres, mais il y avait quelque chose comme trois. Est-ce que je l'ai mis dans vos notes? Je pense que non, hein? Non, il y avait 300 quelques votes versus deux votes pour le contraire. Mais lui, il dit que ça, c'est serré. Quand vous avez 380 quelques personnes qui disent « Oui, Jésus est Dieu », et deux personnes qui disent « Non, il n'était pas Dieu », oh, c'était serré, le vote, hein? En tout cas, j'aimerais avoir le temps de tout expliquer ça, mais je ne l'ai pas. Il y a un bon livre, par exemple, que vous pouvez... Il y a plusieurs bons livres que vous pouvez procurer, et on va vous suggérer ces livres plus tard, qui explique et qui révèle plus en détail tous ces mensonges. Fable numéro 4. Voici quelque chose d'intéressant, juste pour vous montrer jusqu'à quel point toutes les choses qu'ils disent sont basées sur les mensonges et les erreurs. M. Brown dit que l'Évangile, et moi j'ai mis en parenthèse gnostique, c'est pas un des évangiles qui est inspiré de Dieu, mais l'Évangile gnostique de Philippe dit que la compagne de Jésus était Marie-Madeleine. Et tous les experts en araméen nous diront le mot « compagne » à l'époque voulait littéralement dire « épouse ». Donc ça prouve que Jésus était marié avec Marie de Madeleine. Premièrement, il faut savoir c'est quoi un évangile gnostique. J'ai dit qu'il y avait un certain secte des personnes, même au début... pas au début de l'Église, mais avec un certain montant de temps qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, il est arrivé un secte des personnes qui ont complètement tordu et on pourrait dire violé même la parole de Dieu, la signification de la parole de Dieu. Et ils avaient la conviction que tout ce qui est matériel, tout ce qui est naturel, en réalité, est pas bon. Et si ça c'est le cas, si la seule chose qui est bonne, c'est les choses qui sont spirituelles, et tout ce qui est naturel, et ce qui est de la chair, est méchant. Donc, ça ne se peut pas que Jésus soit Dieu et homme à la fois. Il est impossible que Dieu soit un homme, parce que l'homme est méchant. Tout ce qui est naturel est méchant. Donc, on appelle ces gens les gnostiques. Je sais que c'est une définition très, très, très simplifiée. Je ne veux pas entrer en détail de toutes les doctrines des gnostiques, mais en général, c'est ça. Un homme ne peut pas être Dieu, et Dieu ne peut pas être un homme. C'est impossible. Donc, il y a plusieurs de ces personnes qui ont écrit des récits, qu'est-ce qu'on appelle les évangiles ou les gnostiques. Il y avait l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, il y avait l'évangile de Marie, il y a plusieurs. L'évangile de Judas, vous avez peut-être entendu parler de ça dernièrement, ils ont découvert l'évangile de Judas. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert dans l'évangile de Judas? C'est que Judas n'était pas le méchant, c'était le héros. En réalité, Jésus-Christ a demandé à Judas de le trahir. Comme acte d'amour, fais un sacrifice et il faut que tu me trahisses. Donc, et c'est lui qui est vraiment la personne qui devrait être le plus célébrée aujourd'hui, c'est Judas. C'est ces genres de choses, hein? Il y a tellement... Je pense que l'évangile de Thomas, et une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Nouveau Testament était écrit par les témoins oculaires, c'est-à-dire soit les personnes qui ont été avec le Seigneur Jésus, ou les personnes qui étaient les compagnons ou les amis proches des apôtres. Vous comprenez? Le Nouveau Testament était tout écrit et finalisé entre, je pense, 30 et 61 après Jésus-Christ, tandis que les évangiles gnostiques ont été écrits quelques 200-300 ans après. les personnes qui ne connaissaient jamais Jésus, ni les personnes qui connaissaient Jésus. Et comme l'évangile de Thomas, il y a quelque chose, je ne m'en souviens plus de tous les détails, mais c'est vraiment horrible. C'est comme, ça parle de Marie, je pense, et la fait qu'elle est une femme, que Jésus dit que, oh, mais moi, je peux l'amener, et elle peut devenir je peux faire de elle un homme, parce que si elle est un homme, elle peut avoir un esprit, parce que dans le fond, les femmes n'ont pas d'esprit. Quelque chose de vraiment bizarre ici. Mais on rit ici, mais le problème, c'est que même à la nouvelle, les personnes vont entendre, « Oh, on a découvert l'évangile de Judas. Oh, on a, regarde, qu'est-ce que c'est marqué dans l'évangile de Philippe. Dans l'évangile de Philippe, c'est marqué que Marie de Madeleine était la compagne de Jésus, et le mot campagne, comme il y a tous les experts en araméen, nous dirons que le mot campagne, à l'époque, voulait littéralement dire épouse. Et M. Brown, il y a un vraiment grave problème ici. Parce que premièrement, le fait, deuxième page de vos notes, aucun évangile gnostique dit que Jésus était marié. Et l'évangile de Philippe ne fut même pas écrit en araméen. Avez-vous entendu? Il dit que l'évangile de Philippe dit que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus, et le mot « campagne » veut dire en araméen « épouse ». Mais le livre de Philippe n'est même pas écrit dans la langue araméen, mais dans la langue copte, qui est en forme d'égyptien. Donc, en quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vraiment digne de confiance, ces affaires. Hein? Un autre fable. Fable numéro 5, il dit dans le livre que les manuscrits ou les parchemins de la mère morte trouvés dans les années de 1950 contenaient les évangiles qui sont les écrits chrétiens les plus anciens. Et là, il a toute une théorie que l'Église voulait cacher ces choses et il avait un secret à garder, etc. C'est complètement faux. Premièrement, les parchemins furent trouvés en 1947, même pas dans les années 50. Et tout le monde qui connaît l'histoire, vous vous rappelez l'histoire des parchemins de la mère mort, il y avait des bédouins, il y avait un jeune homme berger qui jouait dans le fond, il a lancé une pierre dans une cave et puis il a entendu quelque chose. Et là, il est entré, ils ont découvert les contenants en argile puis qui contenaient les parchemins de la mère mort. Et qu'est-ce qui était là-dedans? Il y avait des commentaires sur l'Ancien Testament, quelques textes séculiers et les portions des Écritures de l'Ancien Testament, les portions de Ésaïe, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qu'en réalité ils ont découvert? C'est que ces choses étaient comme 1000 ans plus vieux que les meilleurs manuscrits qu'ils avaient à date. Et ils ont comparé ces manuscrits qu'ils ont trouvés là, que ce berger a trouvé, et ils ont découvert que c'est identique, absolument identique à ce qu'ils avaient déjà. Donc, une autre confirmation que la parole de Dieu n'a jamais été changée, que la parole de Dieu est vraie. Et là, il essaie de dire que, oh, ben, tu sais, les manuscrits qu'ils ont trouvés à la même heure contiennent les écrits les plus anciens de l'Église et du Nouveau Testament. C'est complètement faux. Laisse-moi vous dire, il n'y a pas grand-chose qu'il dit dans son livre et dans son film qui est vrai. Mais les gens qui ne sont pas instruits, les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils peuvent voir le film, ils peuvent lire le livre, et ils disent, oh, ils nous ont menti toute notre vie, la Bible n'est plus digne de confiance, on va jeter la Bible dans la poubelle, on va prendre l'évangile de Philippe à place. On va prendre l'évangile de Thomas, mesdames, est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Parce que si vous faites ça, peut-être un jour, vous pouvez devenir un homme. Et il y aura de l'espoir pour vous. Ridicule. Ça va contre... C'est le contraire. Et c'est ça qui est bizarre, parce que dans son livre, il dit que le christianisme essaie de mépriser la femme. Mais c'est les évangiles gnostiques qui méprisent la femme plus que le Nouveau Testament. Ça n'a vraiment pas de bon sens, son affaire. Donc, je pense que j'ai déjà assez parlé de son livre, son fameux film. Je voulais juste souligner un couple de ses mensonges, de ses fables le plus flagrant. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que encore, le titre de ce message, c'était les fables, les faits et la foi. On sait que notre foi est quand même basée sur les faits. On sait que notre foi, c'est pas une foi aveugle. Moi, j'ai pas peur de regarder les faits, j'ai pas peur de regarder l'histoire, j'ai pas peur de regarder qu'est-ce que les archéologues vont découvrir, j'ai pas peur de regarder qu'est-ce que les scientifiques vont découvrir, parce que je sais qu'à chaque fois qu'ils vont découvrir de quoi, ils vont découvrir une autre preuve que Dieu est vivant. Même s'ils essaient de tordre, comme quelqu'un a dit une fois, une fois que tous les philosophes et tous les scientifiques ont grimpé de toute leur force et finalement, ils sont arrivés au sommet de la vérité. Savez-vous qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Que les théologiens étaient là depuis tout temps. Finalement, tout va revenir et ils vont dire, ouais, dans le fond, c'est vrai. Il y a une raison pour cette création. Il y a un créateur. Il y a une vérité absolue. Et cette vérité absolue est vraie pour tout le monde, dans toute culture, dans chaque moment de l'histoire. La vérité ne change pas et en fait, la vérité vous affranchira. Donc, la réponse de la foi chrétienne, Hébreux 11, 1 dit, c'est quoi la définition de la foi? J'ai pris la définition de la Bible dans la parole vivante. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Tout le monde dit, je suis absolument certain de la réalité de ce que je ne vois pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Numéro un, je me sens un peu comme l'apôtre Paul aujourd'hui. Quand il avait besoin de défendre son apostolat, il a presque demandé pardon. Il a dit, je vais donner place un peu à la folie. Il a défendu son apostolat, mais dans le fond, c'est comme, c'est ridicule. Je ne devrais même pas être obligé de dire cela. Et comme je dis, c'est la première fois, et je prêche l'Évangile depuis l'âge de 17 ans, c'est peut-être la première fois que j'ai pris autant de temps de confronter spécifiquement une œuvre qui est tellement dans l'erreur, mais je trouvais que c'était une bonne chose à faire ce matin. Mais, en général, c'est quoi l'approche qu'on devrait avoir par rapport à M. Brown ou les autres choses? Parce que, qu'est-ce qu'on voit dans le code Da Vinci? C'est juste un exemple de plusieurs mensonges et des multitudes de mensonges qui vont être multipliés de plus en plus dans les derniers jours. Il faut qu'on soit prêt. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour se défendre? Qu'est-ce qu'on va faire pour avancer la vérité, pour affranchir le monde? Numéro un, il faut étudier la vraie et il sera facile de reconnaître le faux. Savez-vous qu'il y a des personnes qui vont faire de l'argent contrefaçonné, n'est-ce pas? Et il y a toutes des personnes qui sont formées et entraînées pour détecter l'argent contrefaçonné. Mais savez-vous comment ils sont entraînés? Ils n'emmènent pas en pile des faux billets. Leur devoir, c'est d'étudier la vraie chose. Il étudie la vraie chose. Il voit exactement comment un billet de 100$ ou un billet de 5$, 10$, ils vont étudier dans tous les moindres détails comment c'est fabriqué, comment c'est imprimé, exactement. Ils vont être tellement, tellement connaissants de comment ces choses sont fabriquées que dès qu'un faux billet passe devant leurs yeux, ils reconnaissent tout de suite. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est faux! Et ça, c'est votre stratégie numéro un. C'est pourquoi je dis, prenez même pas le temps de lire le livre, prenez même pas le temps d'écouter les films. Je vous suggère pas d'aller lire les documents trop des sectes, des choses qui sont pas vraies. Je sais qu'il y a des personnes qui, des fois, ils veulent étudier, hein, le livre de Mormon, les d'autres livres qu'on sait, dans le fond, c'est pas vrai. Moi, je dirais, gaspillez pas votre temps. À moins que vous êtes quelqu'un qui est bien, bien, bien fondé et vous avez vraiment une raison importante pour le faire, gaspillez pas votre temps. Prenez votre temps d'étudier la vraie Bible. Prenez le temps d'étudier la vérité et dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas vrai devant vos yeux, vous allez reconnaître tout de suite, ça, c'est pas la vraie chose. Amen? Ça, c'est votre stratégie numéro un. Regarde bien.
Il y a un verset ici que j'ai mis dans vos notes. 1 Jean chapitre 4, verset 1. De bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Je ne l'ai pas mis dans vos notes, mais ça vaut la peine peut-être d'aller voir vite ce verset 1 Jean chapitre 4, parce que je veux lire la suite, parce que c'est tellement, tellement fort. 1 Jean 4, un bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ici à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de quoi? L'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, on sait d'où ça vient. Toute cette histoire de Dan Brown, ça vient de quoi? L'esprit de l'Antéchrist. C'est rien de nouveau. Ça agit dans le monde depuis le temps des apôtres. Rien de nouveau ici. Mais qu'est-ce qu'il a dit? On peut reconnaître l'Esprit de Dieu parce que chaque esprit qui confesse Jésus est venu dans la chair. Qu'est-ce que Dan Brown dit? Jésus était un mortel, ce n'est pas Dieu qui est venu chair. Les gnostiques, qu'est-ce qu'ils croyaient? Oh, non, Dieu devient un homme impossible parce que tout ce qui est humain, tout ce qui est naturel, c'est méchant. Donc on sait tout de suite. Une des meilleures choses à faire pour savoir si quelqu'un est vraiment sur le bon track, on pourrait dire, une bonne façon de dévoiler un secte, parce que souvent les sectes vont parler de Jésus, mais demande-leur, qui est Jésus pour toi? Je vais juste le dire. Les mormons croient en Jésus, mais ce n'est pas le même Jésus que vous et moi nous croyons. Eux autres, ils croient que Jésus était le frère de Lucifer. Ils ne vont pas le dire à tout le monde tout de suite. Ils croient, en réalité, plus vous avancez dans ces choses, plus vous les allez découvrir. C'est ça qu'ils croient dans le fond. Tu demandes aux témoins de Jéhovah, ils vont dire, oh, on croit en Jésus, mais demande-leur, est-ce que Jésus est Dieu? Non. Ça, je ne peux pas. Mais Jésus est Dieu. On va voir cela dans 3 semaines. Sans aucune doute. Jésus est Dieu. Donc, bonne question à poser. Mais pour toi, qui est Jésus? Si quelqu'un nie le fait que Jésus-Christ est Dieu venu dans la chair, on sait tout de suite que c'est l'erreur. Amen. Deuxième chose, donc, étudier le vrai, et ce sera facile de reconnaître le faux. Numéro 2, choisissez les bonnes sources. Des fois, combien de personnes, ils vont venir avec toutes sortes de théories, des idées. Ah oui, où est-ce que tu as entendu cela? Ah oui, un tel qui est expert, il a dit, je l'ai entendu à la télévision. Que ça soit par rapport à Dieu ou n'importe quoi. Tu sais, les experts disent que, ils disent que, on ne devrait pas manger ça, on devrait manger ceci. Les experts disent que, ah oui, qui sont ces experts? Ils changent d'idée souvent, n'est-ce pas? Un jour, il est mieux de faire ceci, l'autre jour, il est mieux de ne pas le faire. Choisissez les bonnes sources. 1 Jean 1 encore dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Encore, nous avons les témoins oculaires qui ont écrit le Nouveau Testament, et j'aime beaucoup mieux aller demander à la personne même, la personne qui a touché Jésus, la personne qui a vu Jésus, la personne qui lui-même a eu l'expérience de vivre avec Jésus-Christ, j'aimerais beaucoup mieux apprendre de lui et croire à son témoignage que quelqu'un qui a écrit un évangile gnostique 301 après qu'il est mort. Et vous? Choisissez les bonnes sources. J'aime beaucoup ce verset de 2 Corinthiens 4, 2 qui dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'interrompons pas la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Les apôtres, ceux qui ont écrit la Bible, ils ont déclaré et ils ont publié la vérité. Et moi, je me suis dit, c'est digne de confiance. Et on peut scrutiner, on peut sonder, on peut examiner dans la lumière de l'histoire, dans la lumière des prophéties accomplies, dans la lumière de tout. Qu'est-ce que je dis? Oh, OK, bon, mais c'est pas grave, hein? Un jour, hein? J'ai juste besoin d'écouter plus le français, d'étudier le vrai français, et là, je vais apprendre à parler la vraie langue. Je vais reconnaître le faux. Donc, parlez avec moi plus souvent. Je vais finir par la voir. Mais numéro 3, il faut choisir les bonnes sources. Numéro 3, soyez prêts à défendre la foi avec douceur et respect. Je pense que c'est une chose, on n'en parle pas beaucoup, mais Philippiens chapitre 1, verset 16, Paul a dit, c'est ceci agisse par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Le mot défense, ou défense, c'est apologia, qui veut dire une défense verbale ou un argument raisonné. Comment dire un argument raisonné? Savez-vous que ma foi n'est pas basée sur qu'est-ce que je vois, mais ma foi est quand même raisonnable. Comment on dit la foi est raisonnable? C'est une bonne chose, on peut raisonner avec les gens. Pas avoir des débats, ça ne donne rien d'avoir les débats, mais on peut quand même raisonner et être raisonnable. Des fois, je pense qu'on fait une erreur dans l'Église, on dit, juste crois, mais pourquoi est-ce que je devrais croire? Mais juste crois. Mais il y a une raison pour notre croyance, n'est-ce pas? On a une évidence pour notre foi. Il y a des raisons pour lesquelles je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un a dit Jésus est le Fils de Dieu, je dis, OK, bon, il est le Fils de Dieu. C'est ce genre de foi qui cause du trouble. C'est pourquoi c'est ce genre de foi que quand les gens disent que Jésus était marié avec Marie-Madeleine, ah oh, oui, OK. Leur foi n'est pas basée sur des faits raisonnables. Tandis que ma foi est très raisonnable. On va voir dans les semaines à venir que votre foi en Jésus-Christ est très raisonnable. Dans certains domaines, notre foi dépasse la raison. Mais laisse-moi vous dire que c'est quand même raisonnable. 1 Pierre 3, 15 dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. » Tout le monde dit douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est à vous. Moi, j'aime ça parce que notre but en faisant cela, je sais que j'ai plaisanté un peu à propos de M. Brown, mais je le ferai à sa face aussi. C'est un être humain digne de respect, digne d'amour. Dieu aime ce monsieur. Sincèrement, je pense qu'il est sincèrement dans le champ, mais Dieu l'aime. Mais on a besoin de lui démontrer du respect. Mais 2 Timothée 2, 25 dit ceci. Qui doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. On dit la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, c'est quoi notre attitude? Notre attitude, c'est pas « Vous êtes tellement stupide. Vous êtes imbécile, vous êtes débile. » Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Avec compassion, avec amour, avec tendresse et respect, on veut présenter notre cas d'une façon raisonnable, appuyée par le témoignage de l'Esprit Saint et la confirmation de la parole de Dieu par des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Si on peut, d'une façon raisonnable, défendre la foi, apologia, c'est qu'est-ce qu'on appelle en anglais apologetics, en français c'est les apologétiques. Vous avez entendu parler de cela? C'est une bonne chose. Et dans les deux, trois semaines à venir, je vais vous donner juste quelques outils qui vont vous aider à vous défendre d'une façon raisonnable. Comment vous pouvez défendre la validité de la parole de Dieu? C'est inspiré de lui. C'est digne de confiance. comment vous pouvez défendre la divinité de Jésus-Christ. Et on va commencer la semaine prochaine juste en voyant la vérité sur la vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui ne croient pas à la vérité absolue. Ils disent que ce qui est vrai pour moi, ce n'est pas forcément vrai pour vous. Et juste là, c'est ça le problème. Ils disent, on ne peut pas dire que ça c'est vrai à 100%. On ne peut pas dire que c'est noir et blanc. On va voir la semaine prochaine que oui, quand c'est noir, c'est noir. Et quand c'est blanc, c'est blanc. Et les gens disent, oh, mais vous êtes fermé. Non, je ne suis pas fermé. Je suis complètement ouvert d'esprit. Je suis complètement ouvert à la vérité. Mais je suis complètement fermé au mensonge. Et je suis complètement fermé à la séduction. Je suis complètement fermé aux fables. Amen. Mais je suis ouvert de voir avec mes yeux grands. Comme je dis, je n'ai pas peur d'examiner l'évidence historique. Je n'ai pas peur d'examiner l'évidence scientifique. Je n'ai pas peur d'examiner l'évidence archéologique. Je n'ai pas besoin d'examiner quoi que ce soit. Ma foi n'est pas en péril. C'est les fables qui sont en péril vis-à-vis les faits. Amen. Donc, gloire à Dieu. J'espère que ça vous a donné le goût de revenir la semaine prochaine et d'apprendre ces choses. Et si jamais quelqu'un vous parle du code Da Vinci, vous allez savoir tout de suite que c'est faux. Amen. On va se lever debout. On va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Avec tous les yeux fermés ce matin, j'aimerais prier. Père, au nom de Jésus, je te remercie. Que nous vivons, Seigneur, on sait, dans un temps où les mensonges, Seigneur, les doctrines même des démons vont être répandues de plus en plus. On sait, Seigneur, qu'il y a des esprits séducteurs qui veulent détourner les gens de la vérité, qui veulent aveugler les yeux de ceux qui ne croient pas, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur et la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, on n'a pas peur de ça. En fait, au contraire, on a juste l'intention de se servir de toutes ces choses, ces occasions pour déclarer la vérité. Et Seigneur, ma prière, c'est que dans les quelques semaines à venir, que cette Église va être de plus en plus fondée dans leur foi. Qu'ils vont voir que leur foi, c'est raisonnable. Que, en fait, c'est beaucoup plus raisonnable de croire à la vérité, de croire à la parole de Dieu et de croire en Jésus-Christ que de ne pas croire. Le monde dit que c'est un béquille, qu'on n'est pas intelligent quand on a la foi. Mais Seigneur, on va voir dans les semaines à venir que c'est le contraire. Que Seigneur, nous avons une intelligence qui vient de toi quand nous sommes capables de croire que tu es vrai, que c'est toi qui es le Créateur, que c'est toi qui es amour, c'est toi qui as envoyé ton Fils, c'est toi qui nous as sauvés. Et Seigneur, on te remercie pour les semaines à venir. Que les hommes et les femmes qui sont supposés d'être là vont être là. Donne-nous les rendez-vous divins pour inviter les gens, pour les amener avec nous au nom de Jésus. Mais ce matin, avec tous les yeux fermés, on fait ceci à chaque dimanche matin. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, pasteur, moi, j'ai jamais vraiment donné ma vie à Jésus-Christ. Je crois dans ma tête que Jésus existe. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi et je crois qu'il est ressuscité des morts. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à lui comme il faut. Tu n'as pas l'assurance d'avoir une place réservée pour vous au ciel. Vous n'avez pas l'assurance que si vous trouverez la mort aujourd'hui, que vous irez au ciel, au paradis, pour être avec le Seigneur pour l'éternité. J'ai une bonne nouvelle à annoncer. C'est un message simple mais puissant. Que Dieu a tant aimé le monde. Il vous a aimé tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc, avec tous les yeux fermés, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, oui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus ce matin. J'aimerais que tu pries avec moi, parce que j'aimerais être sûr et certain d'être sauvé. Juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est une personne? Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Peut-être que vous avez déjà connu le Seigneur dans le passé, mais vous vous êtes éloigné de lui. Vous avez besoin de revenir à Jésus ce matin. Si c'est le cas, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Il y a une autre personne? Troisième invitation. Peut-être vous êtes ici, vous êtes sauvé, vous savez que vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle, mais vous n'avez jamais eu l'expérience d'être baptisé du Saint-Esprit, comme Actes 2, 4 dit, « Il fut tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ça, c'est une puissance. On parle de témoigner et de présenter, de défendre la foi, mais on ne peut pas le faire dans notre propre force. Ce n'est pas juste intellectuellement, mais c'est avec la force de l'Esprit. Nous avons besoin de cela. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de cette expérience? Juste lever la main. Il y a une autre personne. Qu'est-ce que je vais demander? Mais je crois que c'est important, parce que Dieu est vivant. Jésus est vivant. Et Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. C'est Jésus qui l'a dit. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose, prendre un pas de la foi. Ça prend un peu de courage, mais ça vaut la peine. Parce que ça va vous fortifier, ça va vous aider à bien partir votre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je vais faire comme j'ai dit, je vais prier avec vous, mais j'aimerais que les personnes qui ont levé la main, qui viennent juste ici en avant et me rejoindre, je suis content, juste ici, regarde-moi. Oh, mais c'est correct, tu veux regarder le monde aussi, mais juste viens ici, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Il y a plusieurs qui ont levé la main. C'est beau, hein, de voir les personnes venir à Jésus. Alléluia, Dieu est bon, il t'aime tellement. Il a un plan pour vos vies. Donc, on a deux autres personnes qui vont nous rejoindre. On va prier ce matin et on va prier que le Seigneur touche votre cœur. Combien de vous, c'est la première fois que vous donnez votre vie à Jésus comme invitation, je pense. OK? Et on va prier cette prière et j'aimerais que vous répétiez cette prière après moi, de tout votre cœur. Et par la suite, il y a une autre personne, merveilleux, merveilleux. Par la suite, on a des personnes qui sont formées, qui sont là pour répondre à vos questions. Juste en arrière de vous, il y a un conseiller qui est prêt à prier avec vous, si vous voulez. Mais on va faire cette prière ensemble. Prions, Père Céleste, je viens à toi, au nom de Jésus. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ et mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi, pour mes péchés, qu'il était enterré et maintenant ressuscité. Merci Seigneur que tu es mon Seigneur et mon Maître. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Je suis ton enfant. Mes péchés sont pardonnés. Je recommence à zéro. Une vie nouvelle. Ton esprit habite en moi. Et je t'aime, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces personnes? Non, je suis content. Vous savez, comme...